Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, comment ça va? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Ah, ça parle déjà de Logan Paul dans la chatroom. Vous m'entendez? Salut Samuel, 5 sur 5, nickel, on est sur le réseau aujourd'hui. Donc un petit peu d'émotion, un petit peu de frayeur. Le réseau va-t-il tenir? On le saura dans cet épisode. On va commencer tout de suite en remerciant nos tipeurs du jour. J'aimerais remercier Romain, Tristan, Ludovic, Elton John, mais on l'a déjà remercié Elton John. Ah, il a peut-être changé de compte, c'est pour ça qu'il est deux fois dans la base de données. Ou alors on a deux Elton John. On a John Elton et Elton John qui nous soutiennent. Et j'aimerais remercier aussi VYPZ, Vibs. Merci à vous, les tipeurs, les contributeurs, sans qui nous ne serions plus là. Ça, je vous le garantis. Un grand merci à vous. Vous nous aidez quand même à continuer. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Ça décroche, merde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous me recevez toujours ou pas? Attention, ça peut décrocher aussi chez vous, hein. C'est revenu. Ok. Attendez un peu avant de dire dans la chatroom que ça déconne. Parce que moi, si je lis un message, ça déconne, je me dis que ça déconne chez tout le monde. Ça peut beaucoup déconcentrer. Faut faire attention à ne pas trop déconcentrer le présentateur. Surtout moi, vous me connaissez. Allez, de quoi on va parler ce matin? Bah déjà, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, j'ai pas trop une petite mine et pourtant, j'ai très peu dormi. J'ai été malade toute la nuit. J'ai mangé un truc qui passait pas du tout. J'ai été bien malade cette nuit, donc peu de sommeil. Hein. On va essayer quand même de tenir, mais grosse fatigue là quand même ce matin. C'est un petit peu dur. Mais bon, hein, il n'y a pas de congé maladie chez Texcop. De quoi on va parler ce matin? On va parler de AV1. AV1, vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, c'est le nouveau standard vidéo qui a été adopté à l'unanimité. Enfin! On parlera également d'une cyberattaque mondiale qui vise 200 000 routeurs iraniens, russes et américains, qui a eu pas mal de conséquences. On parlera également de Telegram en Russie. Ça commence à sentir le roussi en Russie. Hein? Vous voyez, j'ai quand même suffisamment la forme pour trouver un jeu de mots naze dans mes titres. On parlera également de j'allais dire notre cher ami. Non, surtout pas notre cher ami, notre cher vomi plutôt, cette circonstance. Notre cher vomi Logan Paul. Ses statistiques sont en chute libre depuis le scandale de la forêt des suicides. Effectivement, après avoir cru que tout ce bad buzz lui avait apporté encore plus de succès qu'avant, on verra que, bah non, finalement, les choses se passent plutôt. Il y a peut-être une justice dans ce monde, mais vous verrez, ça n'empêche pas de gagner beaucoup d'argent, le bougre. On en reparlera tout à l'heure. On parlera également d'IKEA. IKEA qui lance ses premières enceintes Bluetooth. Et elles sont fort jolies, moi, je trouve. Elles s'appellent Enebi et on en parlera tout à l'heure. On parlera également de Steve Wozniak qui désactive son compte Facebook après la débâcle Cambridge Analytica. Donc, encore un. Et petit plaisir personnel, mais qui fera plaisir à tous les amateurs vidéastes dans la chatroom. Blackmagic annonce sa nouvelle caméra Pocket et elle est bien sexy, la bougre, en tout cas dans sa fiche de spec et dans son prix aussi. Ils attaquent très très fort Panasonic là. Vais-je avoir des nouveaux amours cette année? C'est le grand suspense. Voilà, voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien agrippé à votre tasse de café, thé, lait, chocolat, tout ce que vous buvez le matin. Je prends une petite rasade. Thé au citron, là, pour. Je ne parle pas de ce qui se passe chez Google. Qu'est-ce qui se passe chez Google? Aurais-je raté une news super importante? Attends, je vais voir sur le board technologie. Je n'ai rien qui remonte chez Google de super important, en tout cas dans les articles les plus consultés du jour. Là, je n'ai pas accès hein, aux suggestions news, Yves. Attends, je vais regarder parce que j'aimerais pas rater une grosse news que vous attendez. Mais est-ce que ce n'est pas une news qu'on a traitée déjà hier ? Ça, on l'a déjà traité, Yves, ça, il y a 2 jours. On en a parlé la semaine dernière. Oui, pas il y a 2 jours, on en a déjà parlé la semaine dernière. Faites attention, effectivement, si vous ne suivez pas tous les Techscopes, à bien regarder si, effectivement, notamment dans le Flipboard, on n'a pas déjà traité le sujet, en fait. On en a parlé la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, effectivement. Jeudi ou vendredi. Voilà, allez, on revient tout de suite à notre sujet numéro 1. On va parler de AV1. AV1, vous ne savez pas ce que c'est, et pourtant, c'est super important. C'est le nouveau standard vidéo adopté à l'unanimité. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, il y a une guerre des codecs. Ce n'est pas une guerre de poules, hein, des codecs, mais des codecs vidéo. Et justement, Alliance for Open Media a publié les caractéristiques définitives du codec vidéo AV1 qui va être supporté par la majorité des acteurs du secteur. Et ça, c'est une grosse nouvelle, parce que jusqu'ici, ça se tirait un peu la bourre entre Google, qui défendait le VP9, Apple et d'autres qui supportaient le H265, le HEVC, hein, que vous avez dans les nouveaux iPhone, justement. Et bien là, ils se sont mis d'accord pour tous adopter la V1, qui va être soutenu par Amazon, Arm, Facebook, Google, Intel, Nvidia, Mozilla, Netflix, Microsoft, Adobe, Netflix une deuxième fois, et VLC, Twitch et même Apple. La grande nouveauté de ce codec AV1, et là c'est une vraie victoire, c'est qu'il est open source. Ce qui n'était pas le cas du H264, du H265. Et d'ailleurs, il a une règle d'utilisation que je trouve vachement bonne, c'est que quelqu'un qui attaquerait en justice pour violation de brevet en utilisant la V1 dans son attaque en justice, se verrait retirer le droit d'utiliser le AV1. Il y aura une alliance, en fait, qui va gérer, qui va utiliser la V1. Et il prévoit, justement, un fonds de défense judiciaire pour éviter tout ce qui se passe, justement, avec les codecs où certains attaquent d'autres pour l'utilisation de certains codecs vidéo. Donc, franchement, vous ne réalisez pas, mais quand même, c'est super important. Les codecs et les standards qui sont adoptés, c'est le web qu'on consulte tous, c'est les vidéos que vous regardez. Sur le plan technique, justement, la V1 est beaucoup plus performant même que l'H264 et l'HEVC ou le VPN de Google, puisqu'ils annoncent un gain de volume de 30 à 40% par rapport à une vidéo encodée, qu'elle soit en 265 ou en VP9. Ça permettra aux services de streaming, justement, comme Netflix, Amazon et d'autres, de diffuser en consommant beaucoup moins de bandes passantes. Donc, de réduire aussi leur consommation de ce qui coûte cher dans Internet. Hein, je vous rappelle, de ce qui coûte cher dans Internet, c'est la bande passante. Vous croyez qu'Internet, c'est gratuit, mais non, ça coûte très, très cher, la bande passante. YouTube, par exemple, est un gouffre financier, enfin, coûte extrêmement cher en bande passante. Donc, le modèle économique est assez difficile, par exemple, pour YouTube, même pour Netflix, Amazon et tout ça. YouTube, d'ailleurs, qui n'a été rentable qu'à partir de l'année dernière, si je ne me trompe pas. La V1 permettra également possible la transmission de contenu ultra HD avec une simple connexion ADSL d'une dizaine de mégabits. Alors moi, c'est d'autant plus intéressant que je discutais avec des techniciens de chez Shadow qui viennent maintenant, Shadow transmet l'image de votre PC, si vous connaissez la technologie Shadow, en H265. Et eux, c'est des technologies qui les intéressent énormément. Parce que, par exemple, le H265 permet à Shadow de tourner sur des connexions beaucoup plus faibles. Et là, la V1, je pense qu'ils l'adopteront aussi, permettra de tourner encore sur des connexions encore plus faibles, avec plus de fiabilité. Au niveau du calendrier, ça ne va pas arriver tout de suite. Le contenu n'arrivera pas avant la fin de l'année 2018. Le matériel avant 2019. Et il faudra patienter jusqu'en 2020 pour voir les premiers appareils réellement compatibles AV1. Pourquoi ? Parce que l'AV1, jusqu'ici, il y a plein d'avantages. Il y a un inconvénient, on va dire. C'est que ça utilise énormément de puissance des processeurs pour le décodage. Le décodage et sera matériel. Donc, c'est pas non plus demain la veille, ça sera plutôt 2020, où on pourra l'avoir, par exemple, sur des smartphones. J'ai dit quoi ? AV1 ? J'ai dit AV1. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est AV1, le codec. Un VLC installé sur une Smart TV, ça ne marchera pas. Alors, il faudra une puce de décodage assez performante. Alors, comme ça se passe aujourd'hui, votre ancien matos sera toujours compatible. Simplement, ça n'utilisera pas le codec AV1. Pourquoi tu n'es que déception, Charles-Henri ? Bah oui, mais en même temps, les processeurs, ça va, ils avancent vite. Hein. Aujourd'hui, rien que le H265, tous les processeurs ne sont pas capables. Par exemple, moi, je jouais à Shadow avec mon très ancien Mac de 2009. Ça marchait, mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Enfin, il marche toujours, mais je ne peux pas le faire marcher en H265, mon Shadow, avec mon ancien Mac. Ah, tu te voyais bien l'utiliser demain. Bah écoute, il va falloir attendre un peu, hein. Je sais que la patience n'est pas le fort de notre génération et de notre civilisation actuelle, mais bon, il faut quand même laisser le temps que les choses se mettent en place. L'Ultra HD sur la DSL, je suis vraiment... Bah écoute, moi là, c'est un témoignage direct que je te donne. Shadow sur des connexions vraiment défaillantes, et Dieu sait si je connais les connexions défaillantes chez moi, quand il est en H265, c'est assez impressionnant. Il arrive à garder une structure de l'image et à supporter les baisses de réseau. C'est assez impressionnant. Je suis assez épaté, en fait. Alors, ça tire sur le processeur, mais c'est pas mal du tout, quoi. Pas mal du tout, et je fais quand même de la 2K avec mon Shadow. Hein. Je suis en 2K sur mes jeux. Pour le bien de l'humanité. Écoutez, c'est plutôt bien. Si ça bouffe moins de bandes passantes, c'est bien. A priori, ça rendra les services moins chers. Ils vont nous baisser les prix. Mais... Non, là, je rêve un peu. Ouais. Ils vont augmenter leur marge. On est bien d'accord. Mais bon, hein, tant mieux. Ils pourront financer encore plus de séries. On va dire ça. Hein, on va être positif ce matin. Allez, soyez positifs avec moi ce matin. Bref, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, moi, ça m'enthousiasme bien. Surtout que tout le monde se soit entendu. C'est toujours bien pour nous, les consommateurs, quand tout le monde se met d'accord sur un standard, parce que ça évite les versions incompatibles les unes avec les autres. Non, la 2K, c'est pas le 1080p, Miko. Netflix aura peut-être une qualité digne sur Free. Alors là, ne parlons pas de science-fiction non plus, hein, Vincent. Positive attitude, tout à fait, Sandro. Allez, on continue au niveau des annonces. Déjà, pour vous dire qu'une nouvelle vidéo est sortie hier, si ça vous intéresse, j'ai pris le café, j'ai fait un Nowtech Coffee avec Sébastien Roignan, que vous connaissez peut-être pas, qui est photographe professionnel, mais également youtubeur, qui tient la chaîne F1.4 à pleine ouverture. Et on a eu une discussion. Alors, j'ai dû couper beaucoup de choses. En fait, pour tout vous dire, on a eu d'abord une discussion de 4 heures où on n'a même pas pu faire tourner la caméra tellement c'était long. Et après, quand on a enregistré pendant 2h30. Je vous en ai extrait, je crois, 15 ou 17 minutes. Il fallait effectivement réduire un peu. Déjà que j'ai des gens qui me disent... Alors là, pour le coup, il y en a certains qui me disent c'est trop court. Oui, peut-être que la prochaine fois, je verrai. Peut-être que prochain Naotech Coffee, ce que je ferai peut-être, c'est que je balancerai un live en parallèle pour ceux qui veulent vraiment voir l'intégralité du truc sur la chaîne live. L'intégralité de notre discussion, on verra, ça peut être une option. Peut-être même un live privatif réservé aux tipeurs qui veulent l'intégralité du truc, ça pourrait être une idée. Ah non, mais tu penses bien, Chris, que si je débarquais avec 6 heures de vidéo, déjà j'essaye d'attirer à moi les petits-enfants hein, de YouTube qui déjà s'effarouchent quand ça fait plus de 3 minutes, quoi. Ma phrase pourrait être très très mal interprété, sorti du contexte, déformé, et je me prendrais un beau shitstorm. Là. C'est pas une question de stats, de visionnage, mais tu te doutes bien que je fais une chaîne YouTube pour que les gens regardent mes vidéos. Hein. Je fais pas ça pour l'amour de l'art, je m'en fous, il y a 3 personnes qui regardent mes vidéos, mais au moins elles savent. Non, j'ai pas... Je suis pas non plus, vous l'aurez remarqué quand même dans la chaîne, dans une perspective bankable, où je vous fais des trucs qui fonctionneraient à fond pour la masse audience de YouTube qui a moins de 13 ans. Mais j'essaye quand même d'avoir des formats pas de plus en plus courts. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, les émissions stabilisent, on va dire, entre 9 minutes et une vingtaine de minutes. Autrefois, on avait des émissions de 40 minutes, hein. Oui, ben ça va, les vidéos longues sur YouTube, c'est plutôt mon habitude depuis le départ. Hein. Mais si vous regardez mes vieilles vidéos, il y en a qui faisaient 40 minutes quand même, voire plus. Un vlog par jour, ouais, c'est ça, ouais. Un vlog par jour. Ça me fait rire d'ailleurs parce que Casey Neistat là qui s'y remet avec... c'est bien d'ailleurs, moi je trouve ce qu'il fait là avec... il montre que là, cette fois, il prend quand même une équipe. Hein. Il a une équipe de tournage, une équipe de montage. Voilà, il a du monde. Hein. Il a du monde pour faire ses vlogs. Mais putain, la qualité... Alors là, il vient de monter encore d'un cran en qualité de montage. Vous vous en apercevez peut-être pas. Mais si vous regardez avec attention comment sont montées ces nouvelles vidéos... il met encore une petite claque à tout le monde. Voilà, en tout cas, ça c'était pour Sébastien. La vidéo est sortie hier. Vous pouvez aller la regarder. Il me semblait que j'avais une autre annonce. Mais je ne sais plus quoi. Bon, bah, ça me reviendra peut-être. Non, bah, je dois pas avoir d'autres annonces. Parlons de la cyberattaque mondiale qui vise 200 000 routeurs iraniens, russes et américains. Effectivement, pour l'instant, aucun vol de données n'a été déploré, mais plusieurs pays ont été victimes d'une cyberattaque dont l'objectif aurait été d'envoyer un message. C'est ce qu'il dit. Comment tu fais pour choisir les bonnes séquences? Bah, c'est tout le travail du Desrush. Hein. Un jour, je vous montrerai comment ça se passe, le montage. Vous allez voir que vous allez pleurer et plus jamais vouloir faire des vidéos de votre vie. C'est un travail extrêmement chronophage de choisir les bons moments. En fait, au total, il y a 200 000 routeurs Cisco qui ont été exploités afin de permettre aux pirates de trouver plusieurs points d'entrée. Donc, le ministre iranien des technologies de l'information et de la communication, Mohammad Javad Azari Jahromi, a rapporté que l'Iran avait été ciblé le vendredi 6 avril, donc ça date un petit peu, sans que le pays n'ait été compromis par l'attaque informatique. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'objectif de la cyberattaque n'est pas encore clair et les pirates informatiques n'ont pas laissé beaucoup d'éléments, si ce n'est l'affichage d'un drapeau américain et d'un message disant « Don't mess with our elections », ne jouez pas avec nos élections. Comme il s'agit d'un message contre l'ingérence électorale, il est étrange que celui-ci ne soit pas focalisé sur la Russie et ait touché plusieurs pays victimes. Effectivement, le message qui a été envoyé par les pirates est tellement flagrant, drapeau américain, ne jouez pas avec nos élections, qu'on se doute que c'est justement pas des pirates américains qui ont fait cette cyberattaque. Justement, ils sont plutôt bien planqués. Certains disent que justement, ça serait plutôt un tir d'essai pour voir certaines vulnérabilités. Il faut savoir aujourd'hui que en Iran, en tout cas, 3500 appareils ont été touchés, contre 55 000 aux États-Unis. 14 000 routeurs de Cisco se trouvaient en Chine, là où les derniers se situaient en Russie, Europe et Inde. Donc l'attaque a été mondiale, ça n'a même pas été, comme on l'a lu au début, une attaque qui ciblait que spécifiquement l'Iran, même si ça a commencé effectivement en Iran et que du coup on a pu en extrapoler des choses par rapport à la situation géopolitique actuelle. Donc à voir si ça s'arrête là ou s'il y a d'autres choses qui se planquent derrière. Mais chez Cisco, ils ont intérêt à serrer un petit peu les fesses et surtout les boulons, hein, puisqu'on le sait tous, un serveur, ça fonctionne avec des gros boulons qu'on visse pour que ça marche mieux. Oui, Jérôme ne travaille pas dans la sécurité informatique et c'est tant mieux. Non, a priori, en tout cas, pas touché en France de manière massive ou en tout cas suffisante pour qu'ils en parlent dans l'article. Bah, de toute façon, c'est le jeu, hein, Android Windows, c'est le jeu des pirates, c'est de se faire passer par d'autres, c'est de la contre-information, hein. Voilà. Allez, on continue, on va parler de Telegram. Telegram en Russie, vous le savez qu'en ce moment, il y a un bras de fer, effectivement, entre le gouvernement russe et le Telegram, qui est une appli de messagerie confidentielle et cryptée, qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, est quand même le fondateur est un russe, hein, c'est Pavel Durov. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui se passe? Le service fédéral de supervision des communications de technologie et de l'information et des médias russes, qu'on appelle le Roskomnadzor, ça fait très, très robot qui va te déglinguer la gueule, ça. Roskomnadzor, les Russes l'adorent. N'importe quoi. Crypté, quoi, tes oreilles? Je me suis gouré? Chiffré! Oh, putain! Désolé, je suis très fatigué. Chiffré, bien sûr, t'as raison. Bref, il a déposé une plainte auprès du tribunal russe, le Roknamdzor. Hein? Le but de la manœuvre, c'est de bloquer l'application de messagerie instantanée faute d'avoir répondu favorablement à un ultimatum. Quel est cet ultimatum? C'est que les autorités russes voudraient que Telegram transmette aux autorités les moyens permettant de lire en clair les communications chiffrées qui transitent par la plateforme. Cette demande vient plus spécifiquement du service fédéral de sécurité, le FSB. FSB, c'est l'ex-KGB. Ça vous dit quelque chose, hein? Si elle est rejetée, alors Telegram pourrait être bloqué sur le territoire russe. On est exactement dans le cas Apple versus gouvernement américain, où le gouvernement demande finalement une clé d'entrée, une clé de déchiffrage des messages d'une plateforme chiffrée. Or, c'est pas que... Alors, déjà, ils veulent pas, les mecs de chez... Telegram, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est exactement comme le chiffrement chez Apple. Telegram n'a pas les moyens lui-même de déchiffrer vos messages, et c'est le principe normalement d'un chiffrage efficace, c'est qu'il n'y a que l'émetteur et qui peut transmettre à un récepteur une clé de chiffrage, qui possède cette clé de chiffrage? C'est pas le mec qui possède le réseau social ou le fabricant des smartphones ou quoi que ce soit qui peut, parce que sinon ça devient un backdoor. Et c'est justement, rappelez-vous l'histoire d'Apple avec le gouvernement américain, à partir du moment où il y a un backdoor, c'est plus du chiffrage, c'est la fenêtre ouverte à toutes les à tout. Voilà, il peut un truc ne peut pas être correctement sécurisé s'il y a une backdoor. C'est un non-sens quelque part. Bah, tu peux déchiffrer, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, voire impossible, les mini-maris. Ça rend les choses plus compliquées. Et fait... De toute façon, on va retomber dans le débat. Bien évidemment que tous ces services chiffrés compliquent la vie de ceux qui opèrent pour notre sécurité. Donc, on pourra avoir un raisonnement de base en disant « mais c'est dangereux parce que il faut aider nos forces de sécurité à déchiffrer ce que disent les méchants. » Oui, mais si tu aides les forces de sécurité à déchiffrer ce que disent les méchants, les vilains, les pas beaux, les pédophiles, les terroristes, les mauvaises personnes, ils peuvent déchiffrer tout le monde. Donc, nous, pour l'instant, on va dire, ça va, on est relativement stable, mais imagine dans d'autres pays, par exemple la Russie, où on sait que, par exemple, les journalistes, la liberté d'expression, c'est... Ça peut se terminer très mal, on va dire. Ils ne peuvent plus communiquer avec une messagerie chiffrée, donc ils ne peuvent plus se protéger contre le gouvernement. Donc, finalement, et pour moi, c'est ce qui résume le mieux les choses, tu empêches complètement les contre-pouvoirs en laissant un État tout déchiffrer. Finalement, c'est antidémocratique parce qu'une démocratie n'est viable finalement que quand les contre-pouvoirs ont la liberté d'expression et peuvent sans crainte échanger des informations et contredire la voix du gouvernement. Chiffrage et chiffrement, oui, désolé, j'ai peut-être fait des confusions. Je ne suis pas très bien réveillé ce matin. On parle de chiffrement, hein. Désolé si j'ai dit chiffrage. Ça va, j'ai évité à parler au début le cryptage. Donc, a priori, WhatsApp, oui, a priori. Bon, après, il y a toujours quelque chose... il faut être sûr qu'ils n'ont pas des backdoors. Mais normalement, un chiffrement end-to-end, une messagerie chiffrée end-to-end, oui, elle est le diffuseur de ce réseau social lui-même ne peut pas déchiffrer vos messages. Oui, c'est un peu ça, Guillaume. Effectivement, la liberté d'expression des journalistes russes, c'est un peu de faire. Cryptement. Ah, c'est pas joli, cryptement. Cryptement, ça fait bruit de petit cafard qui crypte. Je dis n'importe quoi. Bon, on va peut-être arrêter là. Hein, Jérôme, tu vas passer à l'article suivant. Bon, l'Iran, c'est fait. La Russie aussi. Maintenant, on passe au Venezuela, le Brésil. Un jour, je vous ferai tous les pays du monde. Hein. Bref, en tout cas, Telegram risque fort d'être interdit en Russie. Et c'est quand on regarde dans les faits, la Russie ne cherche pas vraiment à avoir la clé de chiffrement de Telegram ou un backdoor. Ils cherchent surtout à ce que pouvoir dire « Ah ben voilà, nous on interdit Telegram en Russie, c'est plus autorisé. Hein » Donc les petits journalistes russes qui utilisaient Telegram, niet, fini, goulag, ne caricaturons pas la Russie, on est bien d'accord. Mais bon, la Russie se caricature elle-même en ce moment. C'est mon opinion. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais je donne mon opinion. Oui, la Russie se caricature elle-même en ce moment. Voilà. Et pour moi, elle ne va pas dans le bon sens. Mais c'est mon opinion. Et je la donne. Et voilà, c'est comme ça. Ce monde fait peur, je vais aller sur Vénus. Vénus, ça fait peur aussi, hein. Vénus, c'est pas très, 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 très habitable, hein. Nouvelle guerre froide numérique, ah bah on est plein dedans, hein, depuis un bon bout de temps, hein, là. C'est à fond, même. C'est à fond et je pense qu'on réalise pas à quel point c'est à fond. Ça peut faire peur, faut pas trop réfléchir non plus. Allez, on continue, on va parler d'un sujet qui va vous faire plaisir. Hein, Logan Paul, avec sa belle tête de winner. Putain, mais cette tête à claque, c'est pas possible. Je sais qu'il faut pas détester ce mec, parce qu'il adore être détesté, c'est ce qui fait tout son succès. Mais putain, il le fait bien quand même. Hein. Je peux pas supporter une seconde de ce mec. Je me force à regarder certains de ses contenus, parce que je veux me tenir informé, mais ah, j'ai envie de lui écraser la tête contre le mur, quoi. Mais je sais que il faut pas tomber là-dedans parce que c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il aime. Et il faut pas. Et d'ailleurs, son contenu, je vous le dis, si vous regardez ce type de contenu pour pas que ça lui apporte vraiment une voix de plus, parce que ce que vous regardez, hein, n'oubliez pas que vous donnez une voix finalement aux youtubeurs. Moi, je regarde en truc caché. Alors, ça lui apporte quand même une vue, mais c'est absolument pas lié à mon compte, quoi. Donc, je prends certaines précautions pour regarder certaines vidéos. Et si je pouvais avoir un bouton sur YouTube qui me permettait de retirer ma vue de cette vidéo, j'aimerais bien. Ça serait un truc qui serait bien. Bref, j'en regarde pas beaucoup, hein, parce que franchement, le cerveau ramollit vite. Mais ce qu'il y a d'intéressant sur Logan Paul, c'est qu'on s'était inquiété effectivement au début de cette histoire. Je vais pas vous rappeler toute l'histoire, hein. Vous resituez Logan Paul, la forêt des suicides au Japon, le scandale où sa chaîne YouTube avait été démonétisée un certain temps. Là, elle est remonétisée, mais il est a priori sur la sellette. Oui, j'avoue que c'est un visionnage honteux, hein, et ne le faites pas. Ça, moi, je le fais parce que c'est mon métier aussi. Vous pouvez très bien vous passer de ces vidéos, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, et je vous le conseille. Bref, on s'était inquiété parce qu'effectivement, tout le bad buzz qu'il avait fait autour de sa chaîne avait paradoxalement attiré énormément de monde. Du coup, ses stats avaient grimpé. Il avait de plus en plus de followers, de plus en plus d'abonnés sur sa chaîne. Et attention, on est en train de parler de très gros chiffres. Eh ben, en fait, quelques mois après, on s'aperçoit effectivement que les audiences de ces vidéos ont baissé de près de 47% en 3 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La croissance de ses nouveaux abonnés à la chaîne a baissé de 88% depuis juin dernier. Donc c'est plutôt rassurant qu'il y ait effectivement un contre-effet, on va dire, Logan Paul. Effectivement, la chaîne YouTube Logan Paul Vlog compte 17 millions d'abonnés et 3,5 milliards de vues au total. Mais depuis décembre, les vues mensuelles ont baissé quasiment de moitié. Sur le site d'analyse statistique Social Blade, alors ça, les gens qui font du YouTube connaissent bien Social Blade, on peut en effet voir que la chaîne du YouTuber américain de 22 ans était à 316 millions de vues mensuelles au 1er décembre 2017, contre 167,8 millions au 1er mars 2018, ce qui correspond à une baisse de 47% d'audience en 3 mois. Les statistiques de nouveaux abonnés, bref, ont baissé aussi, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres. Alors, le truc, c'est que ses revenus sont pas vraiment... Ah oui, c'est énorme, mais c'est une chaîne, vous pouvez pas réaliser. Quand je vous dis que YouTube est regardé par des gamins de moins de 13 ans et qu'ils adorent ce type de contenu, c'est en regardant du Logan Paul que vous comprenez. Alors, vous pouvez vous dire, c'est bien fait pour ta gueule, tu vas disparaître. Non, non, parce que ses revenus sont pas vraiment affectés. De toute façon, les revenus publicitaires de YouTube chez les gros YouTubeurs, ça ne représente que même pas un quart de leurs revenus. L'essentiel du revenu des YouTubeurs, c'est les sponsors, les contrats avec les marques et le merchandising, de vendre ses propres t-shirts et ce genre de choses. Ce qui peut être très très lucratif quand tu atteins un certain niveau. Ne me demandez de pas faire des t-shirts, ça serait presque une perte pour moi, hein, d'argent. Mais quand tu es un très gros YouTuber, avec notamment des très jeunes qui regardent tes vidéos, ils adorent acheter ton t-shirt. Donc le merchandising est très en vogue chez les gros YouTubeurs, et les sponsors et tout ça leur rapportent beaucoup, beaucoup plus d'argent que YouTube directement. YouTube, ça, je vous le dis, et maintenant vous êtes assez coutumier du fait, moi, par exemple, dans mon chiffre d'affaires, YouTube ne représente que 10 à 15% de mon chiffre d'affaires. C'est rien. C'est bien pour ça que je vous dis que, quelque part, le fait que mes vidéos soient démonétisées, je m'en tape un peu. Ça ne changera pas grand-chose à la survie de ma chaîne. La survie de ma chaîne repose surtout sur les contributeurs. Et ensuite, les liens d'affiliation. Ensuite, les sponsoring. Je sais que j'en ai pas fait beaucoup, mais je vais en faire plus. Là, il y en a bientôt qui arrivent. Et en tout dernier, la pub YouTube. Il y a très, très peu aujourd'hui de YouTubeurs qui reposent leur chiffre d'affaires ou leur business model sur les revenus YouTube. Ton Bitcoin, non, ça, j'ai pas de Bitcoin. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que avant que les tipeurs soient là, avant que les contributeurs soient là, on va dire les trois premières années, même les quatre premières années, Naotech a surtout réussi à vivre grâce à mes placements en bourse et mes ventes de ce que j'avais placé en bourse. Ça m'a permis de tenir, donc mes économies, en fait. Pierre, pourrais-tu un jour nous parler en détail des revenus ? Alors, en détail, non, mais là, déjà, je vous ai fait un truc assez détaillé en pourcentage. Est-ce que c'est rentable de se lancer ou non ? Non. Je te le dis tout de suite, je préfère pas vous mentir. Se lancer en croyant que vous allez vivre d'une chaîne YouTube, je vais même vous dire franchement, j'aurais pensé que c'était aussi compliqué à l'époque où je me suis lancé, je me serais peut-être pas autant investi là-dedans. C'est super compliqué, c'est très très dur. Les contributeurs, c'est vachement bien, mais c'est pas des sommes énormes non plus. Puis c'est dur à faire monter. C'est très très difficile. Et honnêtement, ce que je veux te dire, c'est que si tu dois te lancer, ne le fais pas en disant je vais gagner de l'argent avec ou même je vais gagner ma vie avec. Parce que ça, c'est très très dur. Après, gagner un petit peu d'argent à côté de ce que d'une autre activité en faisant une chaîne YouTube, oui, ça, c'est tout à fait faisable. Mais essayer de vivre de ça, de faire prospérer une entreprise et de monter un truc, c'est extrêmement difficile. Je regrette, disons que financièrement, je regrette. Enfin, c'est pas que je regrette parce que j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. Je gagnais beaucoup plus d'argent avant dans le métier que je faisais avant. Mais faire ça pour essayer de gagner de l'argent, c'est suicidaire. Financièrement. Donc, je regrette pas parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je me suis jamais autant éclaté dans ma vie. Mais mon banquier, il s'est jamais autant éclaté de sa vie aussi. Hein. Mais pas dans le même sens. Bref. Allez. Logan Paul, on aimerait que tout ça disparaisse. Ça ne disparaîtra pas. Il faut vous y attendre. Une partie de YouTube est devenue pire que de la trash TV. Et que YouTube, il y a des choses extraordinaires, il y a des chaînes extraordinaires, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de merde, et ce qui fonctionne le mieux, c'est la merde. Retenez ça, hein, quand même. Les gens qui me disent, ah, mais t'as pas beaucoup... Aujourd'hui, finalement, le fait que j'ai pas tant de vues que ça et pas tant d'abonnés, alors bien sûr que je veux les augmenter, mais pas trop vite. Parce que le jour où je vais avoir une augmentation spectaculaire et tout ça, je pourrais pas m'empêcher de dire, est-ce que je suis pas en train de faire de la merde, là, en ce moment? Rappelons qu'avant, Jérôme était un baron de la drogue, donc il gagnait pas mal. C'est des rumeurs, ça. C'est des rumeurs qu'ils ont complètement infondées. Fake news. Allez, on continue avec les vraies news et on va parler d'IKEA. Eh oui, hein, et on va pas faire ça pour meubler. On va parler de leurs... Oh là là, mais je me fatigue moi-même. Hein. Je vous le dis. On va parler d'IKEA et effectivement de leurs enceintes Bluetooth qu'ils lancent et qui vont s'appeler les Enebi. Et non, c'est pas un nom suédois, machin. Et personnaliste avec un tissu un peu chine devant. Et il y a également une version 12 pouces qui, elle, a un pied pour pouvoir la poser. Moi, personnellement, je les trouve super jolis. Je trouve vraiment que le design assez minimaliste avec juste un petit bouton pour... après, vous les trouvez peut-être moches. Moi, je les trouve jolis. On n'est pas d'accord, c'est tout. Il y a juste un petit bouton pour le volume. C'est une approche, effectivement, design très industriel, très minimaliste, pas de chichi, pas de froufrou. Et justement, moi, c'est ce que j'aime parce que ça peut s'intégrer vraiment dans n'importe quel décor. Une très belle approche du design, je trouve. Alors, c'est pas une enceinte qui va faire le café, hein. Bien sûr qu'il faudra les tester au niveau du son. Elles sont pas hyper chères. La petite vaudra 49$, la 8 pouces. Et la plus grande, la 12 pouces, vaudra 89$. Donc, c'est pas non plus les meilleurs prix qu'on peut avoir dans des enceintes Bluetooth, hein. Il y en a des chinoises qui coûtent moins cher. C'est pour ça qu'il faudra les tester au niveau du son. Mais quand même, une enceinte, c'est important le design qu'elles ont, parce que c'est quand même un objet qu'on pose dans son intérieur et avec lequel on fait sa déco. Donc, moi, en tout cas, dès qu'elles seront dispo en France... Surtout que je dois aller chez IKEA dans pas longtemps. Certains d'entre vous savent pourquoi. Je m'en prendrais peut-être une. La petite, elle me plaît bien, là, avec sa poignée. Alors, ça s'appellera les Enebi. Il y a la Enebi 8 pouces et la Enebi 12 pouces. Enebi. Je vous ferai un test, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je n'annonce plus rien sur les vidéos de la chaîne. Pour ne pas faire de déçu et que je ne sois pas déçu non plus de ne pas pouvoir faire certaines vidéos que j'ai envie de faire. Parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Peut-être, peut-être un test. Peut-être pas. Ne vous attendez plus à rien. J'aimerais tellement que vous attendiez plus à rien. L'autre jour, je montrais quand même à un ami le nombre de demandes que j'avais par jour pour telle ou telle vidéo, quand est-ce que tu fais la vidéo sur Facebook 2, quand est-ce que tu fais la vidéo sur tel truc. Si je faisais toutes les vidéos qu'on me demande, il faudrait que je fasse plus d'une vidéo par jour. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais si je devais faire une à deux vidéos par jour... Je dirais qu'il me faudrait au moins 5 personnes pour y arriver et un deuxième présentateur. Peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, ça serait mon rêve. Il faudrait au moins 2 équipes de montage, une équipe de tournage, enfin une rotation, on va dire entre 3 petites équipes et au moins 2 présentateurs pour faire 2 contenus par jour. Peut-être y avoir une liste d'envie. Ah, j'en avais fait une sur Amazon, une liste d'envie à une époque. Ouais, je referais peut-être ça pour des trucs. Après, ça me gêne. J'aime pas beaucoup que vous achetiez le matos, en fait. Parce que vraiment, je préfère que vous consacriez l'argent à nous supporter, on va dire, au niveau des salaires, de la ressource humaine. Vraiment, j'aimerais mobiliser vos ressources et votre énergie qui se concrétise par de l'argent, pour financer l'humain chez Naotech. Le reste, je m'en charge. Je trouverai toujours des situations. Ah oui, pour embaucher, on va dire 6 personnes au LTP, il faudrait qu'il soit quand même largement supérieur à ça, hein. Prenez le, je ne parle pas du résultat du SMIC, mais prenez le coût du SMIC, vous rajoutez les charges, machin et tout ça, et après vous calculez combien, et il faudrait encore des gens qui acceptent d'être payés au SMIC, ça c'est, je ne le souhaite pas forcément, ça vous donnera à peu près, n'oubliez pas, hein, toutes les charges de l'entreprise et tout ça, hein, tout ce qu'on paye sans chiffre d'affaires, et vous pouvez calculer à peu près là où devrait être le Tipeee pour embaucher 6 personnes. C'est beaucoup Tipeee. Beaucoup, beaucoup Tipeee. Oui, le SMIC, selon les charges que tu as, ça coûte, on va dire, entre... C'est plus vers les 3000 hein, pour payer un SMIC. Hein. Il reste combien d'articles? Bon, ça va, il en reste deux, stressez pas. Il en reste deux. Ça va, on est tranquille. Voilà, voilà. On va parler effectivement un petit peu de Steve Wozniak. Steve Wozniak, qui est connu d'ailleurs pour avoir cofondé, si vous ne le saviez pas, Apple avec Steve Jobs, a fait savoir qu'il quitterait Facebook à la suite des révélations sur les pratiques de Cambridge Analytica et le manque d'efforts du réseau social pour protéger les données personnelles des inscrits. En gros, il s'inscrit dans la tendance de Brian Actor, d'Elon Musk, qui a fait supprimer les comptes de Tesla et de SpaceX, qui n'a pas de compte personnel d'ailleurs sur Facebook, de dire que voilà. Donc Steve Wozniak a fermé son profil aussi Facebook. Il dit qu'il adopte pour un système de communication à l'ancienne à base de SMS et de courrier électronique, et il juge que le réseau social lui a apporté plus de négatifs que de positifs. Oui, bon, moi après, je juge personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de dire, give Facebook a chance. Facebook se prend le shitstorm de sa vie en ce moment. De bonnes choses peuvent pousser du caca, ne l'oubliez pas. Hein, peut-être que justement, Mark Zuckerberg va remettre à plat son produit et sa manière qu'il avait de faire de l'argent, et ça va peut-être changer ses habitudes. Soyons optimistes, je suis optimiste ce matin. Laissons peut-être... Moi, je suis très curieux de voir la direction que va prendre Facebook dans les 2-3 prochaines années. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et non, je ne fermerai pas mon profil Facebook, personnellement. Après, libre à vous de le faire. Je sais, par contre, que je suis en train de regarder beaucoup plus finement. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis aperçu que dans Messenger, j'avais 400, à peu près 400 messages dans Messenger auxquels j'ai jamais répondu. Des gens qui avaient essayé, qui ne sont pas mes amis, qui ont essayé de me contacter. Ne me contactez pas sur mon compte Jerukenborg, il est juste fait pour la famille, quoi. Et j'ai 400 messages me demandant quel appareil... Alors, j'en ai au moins 200 qui me disent quel appareil photo je dois acheter. Mais ouais, je savais hein, qu'il y en avait, mais j'osais même pas aller regarder. Je suis allé voir l'autre jour, c'est une catastrophe. Ok, je sais hein, que ça t'agace que je dise que j'ai beaucoup de demandes et que toi, tu as compris. Mais je peux te dire, par exemple, ce week-end, j'ai fait un tweet en disant « Arrêtez de m'envoyer des demandes, je peux pas répondre à tout le monde ». Beaucoup m'ont dit « C'est bon, on est au courant, tu nous le dis toutes les semaines et tout ». Ce jour-là, j'ai reçu 10 nouvelles demandes. Voilà. Donc, je suis désolé, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes un peu au courant, effectivement, que je reçois trop de messages pour pouvoir répondre à tout le monde. Mais sortez un petit peu de votre sphère et comprenez bien qu'il y a des nouveaux abonnés tous les jours à la chaîne. Et qu'il y a des nouveaux abonnés tous les jours à Techscope. Hein. Ne croyez pas que le monde gravite autour de vous et à votre rythme. Petit conseil personnel. Bref, allez. Voilà. Je pense qu'il y a un petit côté trendy à supprimer son compte Facebook aujourd'hui. Mais ça, c'est moi. Hein. C'est le petit jugement que je porte. On sait que Steve Wozniak aime bien... prendre un peu le contre-pied. C'est une voix intéressante, de toute façon, Wozniak, dans le monde de la tech, c'est une voix dissonante, assez intéressante. Inadmissible que tu répondes pas à tout le monde, youtubeur débutant. Olivier Schmitt, à 8h49. Ouais, bah, je suis peut-être un youtubeur débutant, mais je suis debout depuis 6h, hein, Olivier Schmitt, hein. Au lieu d'aller m'hydrater sur les montagnes en Sicile, sur les volcans en Sicile, hein. Il y a eu un type que j'ai raté, du coup. Olivier Schmitt me fait rater mes types, en plus. Vous voyez, il essaye de couler ma chaîne. Merci beaucoup, Louis, pour ton super chat. Perso, j'ai téléchargé mes données Facebook, 500 mégas sur un an, avec un usage ultra basique. Je vous laisse imaginer pour vous. Ouais, effectivement. Merci en tout cas beaucoup pour ton super chat. Tu te fais vieux, Olivier. Oh, ça va, eh, oh. J'aurais lancé ma chaîne à ton âge, Olivier. Je ferai 10 fois plus que toi. En fait, l'âge, c'est bien confortable pour certains trucs. Non, non, mais attention, je reviens sur l'histoire de répondre à tout le monde. Je veux pas paraître pédant, snob ou oh là là, le youtubeur, il a trop de succès. J'adorerais répondre à tout le monde. Mais aujourd'hui, je n'exagère pas, et Olivier Schmitt, sérieusement, peut vous le dire. Nous qui sommes des chaînes de conseils, et notamment de conseils audiovisuels, vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment... Les gens ne s'adressent plus aux vendeurs, ne s'adressent plus aux marques pour poser des questions. Ils s'adressent à des conseillers, on va dire, qui sont pas, franchement, et soyons honnêtes, on n'est pas payé pour faire ce boulot-là, donc je ne peux pas passer 100% de mon temps à répondre aux questions. Et aujourd'hui, si je devais répondre à toutes les questions que je reçois par jour, je pourrais absolument plus faire de vidéos. Mais je réponds quand même à pas mal de questions, hein. J'ai pas fait non plus un blockout total. Samedi, j'ai dit les pourcentages de chance. Il y a 40% de chances que je vous réponde sur Twitter, 60% de chances que je vous réponde sur YouTube, 100% de chances que je vous réponde sur Tipeee, 0% de chances que je vous réponde en email, 0% de chances que je vous réponde sur Messenger, 0% de chances que je vous réponde sur Instagram. Enfin, voilà. Faut avoir un CM. Oui, bah, pour avoir un CM, faut payer le CM. Eh. À moins que quelqu'un veuille travailler gratuitement, à plein temps, pour moi. Et encore, je vais vous dire, je n'accepterai pas. Voilà, voilà. Bon, allez. Il me reste 10 minutes pour le prochain... Non, 9, non, 8 minutes, merde. 8 minutes pour le dernier article. Si Olivier Schmitt est encore là, ça va lui faire plaisir, lui qui est en train de tout investir sur Sony. Eh bien, bam, Blackmagic vient de faire une annonce fracassante. En tout cas, fracassante, on va dire, dans les specs, au NAB. Alors, pas tant que ça, parce que là, pour le coup, c'est un appareil qui ressemble, on va dire, en forme factor, un peu un appareil photo. Mais là, c'est un appareil qui a une ADN de caméra la plus prononcée. Bien plus, par exemple, qu'un GH5. N'oublions pas que le GH5 fait des photos tout à fait potables, par exemple. Là, c'est vraiment un appareil très orienté caméra, avec des specs quand même assez sexy. Puisque ils ont c'est Blackmagic Design qui a révélé la version 4K de sa caméra portable qui va permettre de filmer en RAW 4K donc en HDR et en RAW à 60 images secondes en 12 bits ou en 10 bits en ProRes. C'est horriblement moche. Ouais, elle n'est pas super jolie. On est d'accord, c'est pas super joli. Mais les specs, là, je sais pas toi, Olivier, mais de la 4K en 12 bits, RAW, ProRes, violentissime. Ouais, je parle Klingon pour ceux qui ne savent pas. Mais là, ça excite le kiki quand même des vidéastes. Mais c'est là où ton monde va s'effondrer, Olivier. Le prix de la bête, 1300 dollars, putain, pour de la 4K en RAW 12 bits, en ProRes. Vous pouvez en acheter deux pour le prix d'un GH5S. Alors, je me méfie beaucoup, parce que les Blackmagic... Attention, hein. Le capteur, c'est du micro 4 tiers. C'est un vrai micro 4 tiers, quand même. Donc, ça acceptera tous les objectifs micro 4 tiers. C'est pas du full frame. Donc, c'est vraiment pas un truc, on va dire, de photographe. Moi, je voilà, c'est la montée en ISO qui me fait un petit peu peur. Ils disent quand même qu'elle a deux ISO natifs, donc ça c'est intéressant, qu'elle pourrait monter jusqu'à 25 000, plus de 25 000 ISO, ce qui n'est pas fou fou. Et n'importe quelle caméra peut monter très haut en ISO, ça ne veut pas dire qu'elle a un bon traitement des ISO. Comme vous l'avez vu, elle n'a pas du tout de viseur, hein. Tout va se passer sur un grand écran derrière. On est finalement... Mais ça, c'est assez intéressant parce que... voilà, le viseur d'un appareil photo n'intéresse pas forcément les vidéastes qui vont préférer des gros œilletons de caméra s'ils ont besoin d'un œilleton ou de mettre un cache derrière leur grand écran. Là, un écran complètement touch avec plein de commandes, avec bien sûr tout ce qu'il faut pour filmer. Je vous rappelle quand même que Blackmagic, c'est vraiment des gens qui travaillent pour les gens de la fiction. Donc, vous aurez tous les outils pour filmer correctement. Non, c'est pas stabilisé. C'est exactement comme le GH5S. Je vous le rappelle pourquoi on fait pas des capteurs stabilisés. Parce que là, il s'adresse à un public qui en a rien à foutre du capteur stabilisé. Non, a priori, l'écran est pas pivotable. J'avoue que c'est une déception. En même temps, c'est pas une caméra faite pour du vlog. Déjà parce que le capteur est pas stabilisé, on va dire pour du vlog de nos jours. Je vous rappelle que les professionnels n'ont pas besoin d'un capteur stabilisé parce qu'ils stabilisent leur caméra avec des stabilisateurs externes, du gimbal, du Ronin, des choses comme ça. Donc un, ils s'en foutent, et deux, ils n'aiment pas beaucoup les objectifs stabilisés. Ben, quelque part à 1300 €, Olivier, ce qu'ils font là, c'est vraiment une crash cam 4K. C'est-à-dire que c'est pas tant que ça s'adressera au grand public, mais ça, par contre, ça va être un marché énorme au niveau des fictions qui vont avoir tendance à acheter beaucoup de petites caméras pas chères, ce qu'on appelle des crash cams, pour les foutre n'importe où, sur dans des scènes d'action, multiplier les caméras. Je vous le dis, hein. Moi, en tout cas, c'est ma théorie de la vidéo. Si vous avez beaucoup d'argent pour faire une vidéo, vaut mieux multiplier le nombre de vos caméras que de prendre une RED. Vous upperez beaucoup plus votre production vidéo en ayant une multiplicité d'angles avec vos caméras qu'en achetant une seule RED. Moi, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, si un jour on me donnait de quoi m'acheter une RED, je m'achèterais plein de caméras sauf une RED. Parce que c'est ma manière de bosser. J'aime multiplier les caméras, multiplier les angles et pas avoir juste une caméra. Bon, après, si tu me donnes le budget pour m'acheter 5 RED, ok, d'accord. Bah, je vais pas râler non plus. Alors, attention, sur ces histoires de stabilisateurs, on est devenu quand même des princesses aux petits pois, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a même pas 2 ans, on filmait tous avec des corps qui n'étaient absolument pas stabilisés et juste des objectifs stabilisés. Et on était déjà vachement contents. Alors c'est sûr que si on marchait avec son appareil, bah ça bougeait. Donc là, on prenait un gimbal pour stabiliser. Mais enfin, on pleurait pas. Là, on a l'impression, depuis que maintenant certains fabricants font des capteurs stabilisés, faudrait que toutes les caméras aient des capteurs stabilisés. Non, j'adore la stabilisation de mon GH5. Je vais pas vous le cacher. Ça me permet de me passer de trépied et de gimbal dans pas mal de situations. Mais c'est pas, pensez pas qu'une caméra, on peut l'utiliser qu'avec un gimbal. Vous n'êtes pas tous comme Olivier Schmitt, qui lui, même quand il filme, quand il fait une photo de fleurs en Italie, il l'a fait avec son gimbal. Allez voir sa dernière vidéo, vous aurez la preuve. Là, je t'ai eu, Olivier. Non, franchement, je te verrais bien arriver sur un shooting portrait mannequin, machin, avec ton stabilisateur. Et désolé, je peux travailler qu'avec mon gimbal, les filles. C'est vrai que je pense que pour Olivier, il va falloir qu'un fabricant construise une caméra avec le gimbal qui est complètement intégré, en fait. Ce qui est fait d'ailleurs par DJI. Putain, un jour, il faudrait vraiment que je teste ce truc de chez DJI, ça m'intéresse. Bref, tout ça pour dire, il y a un autre truc super excitant dans cette caméra, j'ai encore une minute pour le dire, c'est qu'elle enregistre directement, si vous voulez, sur un disque dur en USB-C. Vous branchez n'importe quel disque dur en USB-C et au lieu d'inscrire ces données sur une carte SD, elle va inscrire directement. Donc imaginez en studio, ça, c'est pour ça que, bon, moi, je vais voir, je pense qu'elle a des défauts, va falloir voir, mais imaginez en studio, vous branchez votre disque dur USB-C derrière. Et vous pouvez directement monter une fois le tournage fini. Il n'y a pas besoin de transférer le contenu de vos disques durs sur des disques durs externes. C'est un gain de temps incroyable. Donc, très intéressante dans les specs. Très, très intéressante dans les specs. À regarder en détail. Là, c'est juste l'annonce. Mais moi, en tout cas, vous l'aurez compris, puisque ça a été l'article le plus long de ce Techscope, j'ai le kiki tout dur. Sur papier, en tout cas, elle est énorme. Après, Blackmagic, je me méfie un petit peu. Hein. Certains adorent les Blackmagic, mais par exemple, une Blackmagic en basse luminosité... Donc là, on va voir... C'est du micro 4 tiers. Hein, alors, est-ce que... J'ai pas le nombre de mégapixels machin. Est-ce qu'ils ont fait des gros pixels comme le GH5S à voir. Mais elle aura forcément des limitations. Déjà, le fait qu'elle soit pas stabilisée, pour moi... Alors là, je fais ma princesse au petit pois. C'est que je la vois déjà plus, cette Blackmagic, comme une caméra de studio que je pourrais utiliser éventuellement sur trépied. Oh bah Marion, tu sais, elle est courant. Hein, quand elle me voit m'exciter parfois sur mon flipboard photos et vidéos à lire des fiches de spec, elle est blasée. Hein. Habitude. Hein. Mais bon, au moins, je suis pas en train de feuilleter un magazine porn. Voilà, hein, chacun son porn, on va dire. Hardis vient de sortir une vidéo sur le futur de la stabilisation, genre il y a 8 minutes. Ah d'accord. Bah oui, Léonab. Et Léonab est effectivement... oui, la stabilisation, c'est un truc. De toute façon, la marge de progrès est encore énorme hein, pour les caméras. Je pense que notamment, c'est une des utilisations des vidéos à 360 ou à 180. Les stabilisations du futur seront un mélange de hardware et de software hyper efficace, quoi. La double page de Photomagazine. Tout à fait. Allez, il est 9h02. Ah, oh, ça va, j'ai 2 minutes de retard. Oh là là. Eh, vous allez faire grève ou quoi, là? Grève de la chatroom. 9h02, moi, je dis que c'est tout à fait correct. Et ça me laisse largement le temps de chercher la question platinium du jour avant de prendre vos questions dans la chatroom. Et la question platinium du jour de Damien, c'est « Jérôme, comment archives-tu tes vidéos sur les disques durs ?» Tu parles de disques de 4 teraoctets qui s'entassent, mais comment les lis-tu sur ton Mac? Les disques eux-mêmes sont-ils répliqués? Bref, quel matériel pour gérer l'archivage vidéo? Un disque dur rangé dans un placard pendant 2 ans, aucun risque qu'il ne s'allume quand on le rebranche. Question globale qui englobe plusieurs questions. Alors, mon système, pour l'instant, il n'est pas bon. Et je veux le changer. Mais pour le changer, ça coûte très cher. Ce que je veux faire me coûte assez cher. Donc, ah, tiens, je viens de perdre la lumière, du coup. Ah, putain. Est-ce que Marion passerait dans le coin? Je sais, j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais cette baisse de lumière. Je crois que c'est quand Marion passe dans le coin. Alors attendez, je remets mon éclairage. Une petite seconde. Hop, éclairage Techscope. Voilà. Il faut vraiment que je change ces trucs-là. C'est quand je suis en retard. Il y a deux choses quand vous travaillez en vidéo, mais ça va être pareil avec les photos si vous bossez avec du RAW. Il ne faut pas confondre sauvegarde et archivage. Déjà, c'est deux trucs hyper importants à comprendre dans son workflow. La sauvegarde, c'est très important que vous soyez redondant parce que la sauvegarde, c'est les fichiers sur lesquels vous bossez actuellement. Il faut que vous les ayez au moins à 2 endroits différents. Moi, ma stratégie actuelle, c'est quand je peux, Quand je viens de terminer un tournage, je copie donc les fichiers sur un disque dur de montage. Si je peux, je garde cette SD, je ne la formate pas. Si je peux, je garde au moins sur SD le tant que cette vidéo n'est pas sortie. Pour avoir, voilà, un espèce de backup en SD. C'est pour ça d'ailleurs que je vais m'acheter deux nouvelles cartes SD 256 Go. C'est pour avoir une petite sauvegarde SD entre deux tournages. Donc, mes fichiers sont déjà sur un premier disque dur qui sont des disques durs effectivement extractibles dans un deck que j'avais déjà présenté sur la chaîne qui font 1 teraoctet. Là-dessus, j'arrive à monter une ou deux vidéos. J'arrive à copier une ou deux vidéos parce qu'aujourd'hui, nos montages sont lourds. Ok. Ces disques, pendant la nuit, sont archivés sur le cloud avec Razorblade. Donc, j'ai une sécurité. Ce que j'aimerais aujourd'hui faire, c'est qu'il y ait en plus un système RAID qui copie ces disques physiquement, que j'ai une sauvegarde RAID en plus. Mais pour ça, il faut que j'achète des disques RAID, des gros disques durs de 20 Tera. Parce qu'aujourd'hui, 20 Tera, ça me fait la moitié d'une année hein, en montage. Il me faut des quantités énormes et ça coûte très cher. Aujourd'hui, le système que j'aimerais acheter, il coûte 2 500 €. Donc, c'est plus cher qu'un ordinateur pour avoir 20 Tera avec des trucs extractibles. Alors, il y a des disques de 20 Tera qui valent moins cher. Attendez avant de me poster tout ça. Ah, là, il y a le disque dur Ching Kong Mang qui vaut à peine 500 € et qui fait 20 Tera. En vidéo, on n'utilise pas n'importe quel disque dur. On a besoin, c'est des disques durs de travail. C'est justement pas des disques durs d'archivage ou de stockage ou des petits disques durs. Il faut des disques durs bien spécifiques avec un certain nombre de sécurités, des vitesses de lecture assez constantes parce que la vitesse de notre montage en dépend vachement. Bref, je vous ai fait tout un cours sur la sauvegarde. Après, il y a l'archivage. L'archivage pour ma chaîne, c'est moins grave. C'est-à-dire, j'archive tout, parce que souvent, vous avez constaté que dans mes vidéos, je vais chercher des bouts de vieilles vidéos. Notamment quand je parle d'un iPhone et que je veux vous reparler de l'iPhone 5, je sais que j'ai toujours les rushs de l'iPhone 5 sur un disque dur chez moi. Là, pour ça, pour l'archivage, j'ai fait un système vraiment pas cher, où j'ai des docks sur lesquels je peux mettre des disques durs internes de PC, ceux qui valent vraiment pas cher, où là, effectivement, je peux avoir des disques durs à 60 € de 4 Tera. Enfin, non, peut-être pas 4 Tera, ça vaut encore dans une centaine d'euros dans ces eaux-là, et sur lesquels je sauvegarde. Le NAS n'est pas exactement ce qu'il faut pour... Je m'en fous, moi, d'un truc qui soit partagé sur le réseau. En vidéo, nous, les fichiers sont tellement gros que je préférerais avoir un gros disque dur en RAID, en Thunderbolt 3, plutôt que d'avoir un NAS. Ah oui, c'est des sacrés budgets, ce métier. Ah oui, c'est sûr, la vidéo, ça coûte cher, hein. Le NAS, c'est très bien pour d'autres métiers. Mais le NAS pour la vidéo, c'est pas la panacée. Mais 32 gigas, on peut rien mettre sur une clé de 32 gigas. T'es ouf. Déjà, aujourd'hui, mon vrai problème, c'est comme on travaille en 4K 10 bits, la taille standard d'un Tera de disque dur ne me suffit pas. Il me faudrait comme disque de travail des disques de 4 Tera. Et c'est encore cher, les disques de 4 Tera, parce que nos disques durs se remplissent beaucoup trop vite. Aujourd'hui, une vidéo Nowtech, elle pèse entre minimum, pendant qu'elle est en montage, c'est-à-dire avec le render et tout ça, ça pèse entre 400 et 800 gigas, une vidéo Nowtech, pendant sa période de montage. Après, à l'archivage, je vire tous les renders, je vire tous les fichiers optimisés et généralement, voilà. Mais par exemple, sur l'iPhone, je regardais le fichier de sauvegarde sur mes dernières vidéos de l'iPhone, où il y a l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Il pèse quand même 400 gigas, sans les renders, sans rien, quoi. Rien que les rushs. Donc, ouais, ça pèse lourd. Hein. « Non, ce n'est pas des NAS, encore une fois, qu'il nous faut. C'est des disques. Moi, je m'en fous qu'ils soient en réseau. Je préférerais avoir des disques Thunderbolt 3 reliés directement à l'ordinateur de montage que d'avoir un NAS pour que ça aille vite, beaucoup plus vite. Donc non, notre solution aujourd'hui, c'est plutôt des très gros disques durs de montage, très rapides, avec des très très grosses contenances, et pas vraiment un NAS. Pour l'archivage, oui, peut-être, mais le problème que j'ai avec l'archivage, là, on va vraiment dans le fond du truc, c'est que les bibliothèques Final Cut Pro, il y a une astuce qui existe, mais c'est pas hyper pour les faire passer sur un NAS, parce que c'est un type de fichier bien particulier. Bref. Mais effectivement, le NAS, ça serait plus pour une solution d'archivage, en fait. Voilà, voilà. J'ai été long sur la réponse, mais bon, je pense que ça a intéressé au moins 2-3 personnes d'entre vous. Les autres sont morts ou sont partis. Mais ils peuvent me poser des questions dès maintenant. Si vous avez des questions à me poser, je suis là pour y répondre. Allez, on va rester jusqu'à 9h20, donc 10 minutes. 10 minutes si vous avez des questions. En tant que grenoblois, tu dis papier, caillou, ciseau ou pierre, feuille, ciseau? Je suis pas de Grenoble, hein. J'ai habité Grenoble. Donc, moi, je dis papier, ciseau, caillou, Spock. Perso, j'archive sur mes disques durs externes et NAS pour mes projets perso plutôt. Salut, bonne journée à toi, Olivier. Albert dans le lit derrière, non, quand même pas. Un test sur le Sony A7 III. Bah, va voir déjà sur la chaîne d'Olivier Schmitt, justement, qui vient de partir, le test qu'il a fait. Nous, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Je promets rien. Je dis plus rien, maintenant. Merci beaucoup pour ton super chat, Android. Mise à jour Windows 10 Spring Creator aujourd'hui. Ah ah! Effectivement. Lézard Spock, oui, j'ai oublié le lézard là-dedans. Ouais, j'ai une sacrée quantité de disques pour mon archivage, ouais. J'ai un beau placard rempli de disques durs. D'ailleurs, je me suis acheté un caisson pour les mettre. En tant que Parisien, considères-tu que les provinciaux sont français? Bah, déjà que pour moi, la banlieue, je fais des vaccins avant d'y aller, hein. Mais bien... Et tu sais, je suis comme tous les Parisiens, hein. Je viens pas de Paris. Hein. Tous les Parisiens sont des provinciaux, hein. Tu montes à Paris me le prêter. Non mais Olivier, là, c'est pas la peine. Je pars en vacances, j'ai pas le temps. Là, de toute façon, j'ai trop de vidéos. Là, j'ai 15 jours pour faire 4 vidéos qui sont urgentissimes. Non, je prendrai pas de test du A7 III. Je prends plus rien, là. Alors, test de l'iPhone 10 versus S9, peut-être, peut-être pas. Je te cacherai pas que j'ai fait des photos et des vidéos comparatives, mais est-ce que je ferai la vidéo? J'en sais rien. Je sais que je vais pas avoir le temps avant mes vacances. Alors, la Surface Book 2, on achète si on a besoin de puissance. Je vais pas te faire... Alors, maintenant, vous voulez que je vous fasse des tests comme ça, sauvages, au milieu d'une chatroom? Bah, je vais te le faire, hein, du coup. Hein. Si tu es un gros utilisateur Windows et que tu as absolument besoin de toute la puissance en mobilité quand tu n'es pas en réseau, parce qu'honnêtement, si tu as du réseau, j'ai presque envie de dire, prends-toi un Shadow. C'est pas mal comme accroche, ça. Si tu as du réseau, prends un Shadow. Mais si tu as vraiment besoin de beaucoup de puissance, sans compromis, machin... Ouais, la Surface Book 2 est vraiment bien. Mais attention, hein, ça coûte quand même très très cher. Hein. Donc si c'est ton entreprise qui paye, ouais. Voilà. Tu pars en vacances, plus d'émissions. Ouais, on va couper la chaîne pendant 15 jours. Il n'y aura plus de live, plus de vidéos. Et ça sera à partir du 26 de ce mois. Et on rentre mi-mai, quelque part comme ça. Et on fait, pour la première fois de l'histoire de la chaîne, une vraie coupure. Il n'y aura pas de live le matin et il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Je monte exclusivement sur Final Cut. Oui. Est-ce que l'utilisation d'une souris est indispensable pour toi ? Pour le montage, non. Il y a des montages. Alors, j'en fais pas autant que je voudrais, mais un montage peut se faire sur un iPad. Mais je conseille le stylet pour avoir un peu de précision. Quels sont les critères de publication du sujet d'une vidéo ? Que j'ai envie de la faire. Je veux dire, Yves, c'est presque mon principal. Vu que je suis très mal payé pour le faire et je gagne très mal ma vie, il faut que j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Alors, je sais que du coup, mon édito manque de cohérence et que je fais pas toutes les vidéos suivant l'actu, etc. Mais en fait, moi, les vidéos, ça me prend comme une envie de pisser. Et j'aime bien passer d'un sujet un peu général à des sujets un peu particuliers. Et vraiment, hein, c'est mon truc, c'est que il faut que j'ai la passion pour la faire, quoi. Y a des vidéos que j'ai faites parce que j'étais obligé de les faire et c'est pas mes meilleures vidéos, quoi. Pas peur de perdre des abonnés avec de telles vacances? Non. Non, puis à un moment, il faut couper, tu vois. Ça fait 4-5 ans. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas pris des vraies vacances avec Marion. La dernière fois, c'est quand on est parti au Vietnam. Donc ça date. Et c'est important aussi pour la chaîne que j'ai 15 jours où je prends du recul. Je réfléchisse à un certain nombre de choses. J'ai des décisions à prendre, même le Techscope, comment il doit évoluer. Ça me fera du bien de me vider un peu la tête. Vous le faites bien, vous. Les télés aussi hein, s'arrêtent. Hein. Normalement. Alors, je sais, d'autres chaînes YouTube, elles prévoient du contenu. Il n'est pas exclu, mais je ne veux rien promettre qu'il y ait peut-être du contenu qui sera monté pendant que je ne serai pas là et peut-être diffusé quand je ne serai pas là. Mais pas beaucoup, parce que j'ai déjà beaucoup de vidéos à faire avant le départ. Bah, les télés font des rediffs. Vous n'avez qu'à regarder nos anciennes vidéos ou d'anciens Techscope que vous auriez ratés. Peut-on faire des ralentis en post-prod? Oui, bien sûr. Ah non, si ta vidéo est tournée en 25 images secondes, non. Tu ne peux pas faire un ralenti. Alors, tu peux, en trichant avec certains logiciels qui vont recomposer des images, mais en théorie, non. Il faut que tu fasses du 50 images secondes pour faire un ralenti x2 en 25 images secondes. Non, ça ne sera pas le 10 mai, c'est mi-mai. Putain, hey, les gens, laissez-moi partir en vacances. Tous les matins, les vidéos la semaine, sans parler des week-ends. Hélas, il y a trop de week-ends où je travaille. Ce que j'essaye de moins faire, déjà. Écoutez, je me dis que c'est plutôt une bonne période. Il y a beaucoup de ponts et de congés à ces moments-là. Vous aussi, déconnectez un petit peu, peut-être, pendant cette période-là. Hein, un bêtisier, vous ne vous rendez pas compte, mais un bêtisier, c'est hyper long à monter. C'est super long à monter, un bêtisier. Il y a des équipes qui sont dédiées à ça en télé, hein, pour monter les bêtises. Ça veut dire remonter sur toutes les vidéos, réouvrir toutes les vidéos, trouver les moments drôles. Les monter, c'est un des montages les plus cauchemardesques à faire, un bêtisier. Donc ça, non. J'ai pas les ressources humaines pour vous monter un bêtisier. Allez, je prends une dernière question et puis on se quitte. Une ou deux dernières questions, et encore 2 minutes. Une mire avec de la neige. Mais Nazado, regardez mes vieilles vidéos, essayez de trouver vos 3 vidéos favorites de la chaîne, remontez dans les archives, puis découvrez des nouveaux YouTubeurs. Découvrez des nouveaux YouTubeurs, cherchez, soyez curieux, profitez-en. Tu dois faire une annonce sur Tipeee, c'est quand? Je ne sais pas encore quand. Mais bientôt. Bravo pour la vidéo d'hier avec ton gourou Sébastien. C'est vrai qu'il a un peu une tête de gourou en plus avec sa barbe. Mais écoute, Squeezie, c'est pas si mal ce qu'il fait en ce moment. Moi, j'aime bien Squeezie. Voilà, Caribou va organiser un programme pour les addicts sur le Slack. Vous allez faire... J'imagine des faux Texcopes avec un iPhone en carton. Tu sais, le... les personnes grave addictes qui se font un petit truc en carton avec ma photo et avec un gif, tu vois, qui bouge dedans. Ouais. Je peux vous dire un truc, c'est que c'est pas facile pour moi de couper aussi. Mais ça me fera du bien et j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Est-ce qu'il y aura forcément des changements? Non. Non. Parfois, décider de rien changer, mais il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir le décider. J'ai besoin de réfléchir à un certain nombre de choses. Les vacances, c'est fait pour ça aussi. J'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de me changer la tête. J'ai besoin de partir en vacances sans me dire que je vais tourner un milliard de tests pendant mes vacances, sans faire du vlog et ce genre de trucs. J'ai besoin de déconnecter, quoi. On va dans les Cyclades. Après, vous aurez des Instagram Stories, hein, rassurez-vous. Hein. Vous avez qu'à me suivre sur Instagram, vous aurez des nouvelles. Mais ouais, là, j'ai besoin de souffler un petit peu, là. Si Apple sort un nouvel iPad Pro, tu reviens pour le tester. Rien à foutre. Je reviendrai pour rien au monde. Ils peuvent annoncer ce qu'ils veulent. Non, je prends pas le train pour les vacances. On y va en avion, puis après, c'est du bateau. T'as déjà parlé de ta statuette précycladique. Et bien justement, cette statuette, si mes souvenirs sont bons, c'est une reproduction d'une statuette précycladique trouvée sur Délos. Et on y va à Délos, justement. Délos, qui est une île archéologique où il n'y a que les archéologues qui ont le droit de dormir. Nous, on a le droit de visiter que la journée, qui est en face de Mykonos. Et si un jour vous faites les Cyclades, je vous conseille vraiment cette île. Et je veux la faire découvrir à Marion aussi. Donc, c'est d'ailleurs notre première destination. On va à Délos. Un des premiers Oscars. Exactement. Le Oscar de la meilleure cuisse de chevreuil est remis à Eh oui, à un grand homme. Je vais louper la Google I/O et Microsoft Build. Rien à foutre, m'en fous. M'en fous complètement de la Build. Il y en aura l'année prochaine. On s'en fout. Je vais faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai deux tournages, beaucoup d'administratifs en retard, un rendez-vous, et si j'arrive à caser, allez, une ou deux heures de montage là-dedans, cette nuit. Ah non, j'ai un dîner ce soir. Après le dîner. Voilà un peu ma journée, mais j'ai deux tournages déjà. Vas-tu acheter l'Apple Watch Série 4? Peut-être, on verra. J'en sais rien, elle n'est pas encore annoncée. Hein. Après, j'achète toujours les trucs pour la chaîne. La vraie question, c'est est-ce que je la garde? Par exemple, l'Apple Watch 2, je ne l'avais pas gardé. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. 3 minutes de retard. Quel logiciel utilises-tu pour faire tes lives YouTube? J'utilise aucun logiciel, j'utilise mon smartphone et l'appli YouTube qui permet de faire un live directement. C'est justement ce que j'aime avec le live YouTube sur smartphone, c'est que je n'ai pas à me prendre la tête avec des logiciels. J'appuie sur un bouton et ça marche. Bonne journée à tous. C'est Marion qui vous fera le Texcope demain normalement. Je vous souhaite une très, très bonne journée à tous. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut Caribou. Et d'ailleurs, Caribou, il faut qu'on...